L'histoire est comme un clin d'œil, furtif, aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107FM. Épisode 10, le crack de Wall Street et la Grande Dépression.
À la sortie de la Première Guerre mondiale, s'ouvre aux États-Unis une période de prospérité. En position de force vis-à-vis de l'Europe qui ressort ruinée de la Première Guerre mondiale, les Américains accordent aux pays du vieux continent de multiples crédits qui permettent à l'économie de se reconstruire. Les années 1920 sont grâce à cet afflux des années d'euphorie et correspondent à un foisonnement d'activités culturelles, sociales et artistiques.
À Paris, c'est dans ces années-là qu'émergent des vedettes telles que Joséphine Baker, Maurice Chevalier ou encore Miss Tinguette. De nouvelles formes d'expression littéraire ou de peinture s'affirment dans une sorte de positivisme exacerbé, une volonté de profiter de la vie après les terribles années de la guerre.
C'est le mouvement surréaliste qui s'affirme alors, avec de grands noms tels que Paul Éluard ou André Breton pour la poésie, Salvador Dali ou Picasso pour la peinture, Jean Cocteau pour le cinéma et Django Reinhardt pour la musique.
Cette période faste donne lieu à de multiples chrononymes dans tous les pays traversés par cette effervescence. On parle des Roaring Twenties aux États-Unis ou des Ruggenti Anni en Italie, qu'on pourrait aussi traduire par années rugissantes. Des Golden Schwanzinger en Allemagne, les années 20 dorées, de Felices Años 20 en Espagne, les bonnes années 20. En France, cette période est désignée plus durement a posteriori puisque c'est un journaliste qui qualifie en 1932 ces années 1920 d'années folles pour dénoncer cette décennie d'excès et d'insouciance qui connaît une fin brutale avec une crise mondiale née aux États-Unis en 1929.
Les conséquences de cet arrêt brutal de la croissance ouvrent sur une nouvelle décennie minée par de nombreuses crises, notamment économiques, qui donnent lieu à l'apparition d'un nouveau chrononyme désignant ces années et qui est cette fois plus universellement partagé, la Grande Dépression.
C'est le point qui va nous intéresser aujourd'hui. Comment est-on passé d'une décennie de prospérité à une crise mondiale qui eut d'immenses répercussions économiques, politiques et sociales dans les années 30 ?
Pour répondre à cela, nous allons d'abord nous intéresser au point de départ de cette crise, la grande place boursière de New York qui connut un jeudi noir en octobre 1929.
Le crack de Wall Street, la Grande Dépression, clin d'œil à l'histoire.
De l'autre côté de l'Atlantique, dans la fabuleuse Amérique, brillait d'un éclat fantastique le dollar. Il faisait rêver les gueux en loques, les marchands de soupe et les loufoques, dont le cerveau va la breloque, le dollar. Et par milliers de la vieille Europe, quittant sa ferme, son échoppe, où les bas quartiers interlopent, on part, ayant vendu jusqu'à sa chemise, on met le cap sur la terre promise pour voir le dieu dans son église, le dieu dollar.
Raphaël, qu'est-ce qui se passe alors à Wall Street le 24 octobre 1929, un jeudi ?
Oui, le crack de Wall Street du 24 octobre donc est en premier lieu dû à une trop grande confiance des investisseurs dans le marché. Depuis 1926, les cours des actions placées en bourse ne cessaient de monter. Mais une psychose née sans doute d'une rumeur s'empare le jeudi 24 octobre de Wall Street. Les spéculateurs se mettent à craindre subitement un effondrement des cours des actions qu'ils venaient d'acquérir. Or, la plupart d'entre eux achetaient sans argent, ne se remboursant que lors de la revente de leurs actions. Ce vent de panique entraîne la vente de plus de 12 millions de titres et l'effondrement de la valeur des actions de plus de 43%. Les banques rachètent en masse ces actions, mais le mardi 29 octobre, une nouvelle vente massive de 16 millions de titres pousse de nombreux établissements à la faillite lors de ce que l'on appelait le mardi noir.
Alors, est-ce que cette crise boursière qui touche d'abord les spéculateurs a un impact sur ce qu'on appelle l'économie réelle ?
Alors oui, contrairement à ce que pensait l'administration du président Hoover, elle va l'être en effet, et plutôt durement même, à cause d'une réaction en chaîne qui suit l'effondrement de la place boursière. Déjà, le rachat le jeudi noir des actions par les banques provoque de fortes dépenses qui se transforment en pure perte avec le mardi noir. un manque de liquidité, ces banques sont contraintes à la faillite. De plus, les spéculateurs dont il est question ici sont souvent de simples ménages qui avaient pris pour habitude, les années précédentes, de spéculer pour rembourser leurs crédits. Boursicoter était une sorte de sport national dans de nombreuses familles. Avec le jeudi noir, ce sont donc des centaines de milliers de petits porte-monnaies qui se retrouvent ruinés et dans l'incapacité de rembourser leurs emprunts, accélérant ainsi la faillite des banques. Mais la crise ne s'arrête pas là. Avec la fermeture des banques et la ruine de nombreuses familles, les entreprises de biens de consommation se retrouvent sans clients. Les prix de vente dégringolent et leurs produits ne sont plus rentables. Qui plus est, elles ne peuvent plus se tourner vers les établissements bancaires qui leur permettraient de passer la crise en faisant des emprunts. Entre 1929 et 1933, 10 000 banques ferment rien qu'aux États-Unis. Pris en étau entre le marteau et l'enclume, des milliers d'entreprises sont donc contraintes à la faillite, détruisant ainsi des millions d'emplois. En 3 ans, 30% des travailleurs états-uniens perdent leur emploi, d'où un appauvrissement général de la population. Du plein emploi en 1929, les États-Unis dénombrent en 1933 près de 13 millions de chômeurs.
C'est énorme, en effet. C'est un euphémisme de dire que la crise a touché l'économie réelle. Y a-t-il eu d'autres conséquences ?
Oui, il y en a eu d'autres. On peut ajouter une crise climatique qui a pour cause directe cette crise de Wall Street.
Déjà à l'époque, comment une telle chose est possible ?
La chute générale des prix pousse de nombreux fermiers à augmenter leur production pour pouvoir survivre, notamment dans les états de l'Oklahoma, du Kansas et du Texas. Pour cela, ils sont donc contraints d'augmenter les surfaces cultivables et d'irriguer davantage de terres, ce qui provoque une pénurie d'eau sans précédent sur ces territoires. Entre 1931 et 1937, ces vastes plaines se transforment en de véritables terrains désertiques, exposés au soleil et au vent. Les tempêtes sont de plus en plus nombreuses dans les années 1930, soulèvent alors d'immenses nuages de poussière que les forêts défrichées ne peuvent plus retenir et qui viennent se déposer sur les cultures pour les anéantir. Cette région devient alors le Dust Bowl, le bassin de poussière, aride et impropre à l'agriculture. Les maisons, le matériel agricole, les pâturages sont détruits par ces vagues de Black Blizzard dont nous avons conservé des photographies apocalyptiques incroyables. Conséquence, de nombreuses familles de fermiers sont jetées sur les routes et contraintes de migrer vers des cieux plus cléments. Voici un extrait des raisins de la colère de Steinbeck. Une famille, les Jode, est contrainte de quitter l'Oklahoma à cause de la sécheresse, des difficultés économiques et des bouleversements dans le monde agricole. Dans cet extrait, un black blizzard vient frapper la plaine.
Au milieu de cette nuit-là, le vent tomba et le silence s'écrasa sur la terre. L'air, saturé de poussière, assourdit les sons plus complètement encore que la brume. Les gens couchés dans leur lit entendirent le vent s'arrêter. Ils s'éveillèrent lorsque le vent hurleur se tut. Retenant leur souffle, ils écoutaient attentivement le silence. Puis les coqs chantèrent et leur chant n'arrivait qu'assourdi. Alors les gens se tournèrent et se retournèrent encore dans leur lit, attendant l'aube avec impatience. Ils savaient qu'il faudrait longtemps à la poussière pour se déposer sur le sol. Le lendemain matin, la poussière restait suspendue en l'air comme de la brume et le soleil était rouge comme du sang frais caillé. Toute la journée, la poussière descendit du ciel comme au travers d'un tamis et le jour suivant, elle continua de descendre, recouvrant la terre d'un manteau uniforme. Elle se déposait sur le maïs, s'amoncelait au sommet des pieux des clôtures, s'amoncelait sur les fils de fer. Elle s'étendait sur les toits, ensevelissait les herbes et les arbres. Les gens sortirent des maisons, humèrent l'air chaud et corrosif et se protégèrent le nez. Les enfants sortirent eux aussi des maisons, mais ils ne criaient pas. Ils ne couraient pas comme ils eussent fait après la pluie. Les hommes se tenaient près de leurs clôtures et regardaient leur maïs dévasté qui se desséchait vite maintenant. Ne montrant plus qu'un tout petit peu de vert sous la mince couche de poussière. Les hommes se taisaient et ne bougèrent plus. Et les femmes sortirent des maisons pour venir se placer près de leurs hommes, pour voir si cette fois-ci, les hommes allaient flancher.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas, 107 FM. Raphaël, quelles furent les répercussions de cette crise économique dans le monde ?
En premier lieu, les États-Unis, pris dans la tourmente de la crise, vont cesser de soutenir la reconstruction de l'économie européenne. Tous les capitaux américains retournent immédiatement sur le nouveau continent. Les fermetures massives des banques états-uniennes se répercutent en Europe, notamment dans les pays qui dépendaient le plus de ces emprunts, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la France et le Royaume-Uni. À cause de la mauvaise santé des pays d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord, c'est tout le commerce international qui se grippe. D'autant plus que les États, pour tenter de protéger leur marché intérieur, mettent en place des mesures protectionnistes et se referment sur eux-mêmes. Entre 1929 et 1933, la valeur des biens échangés est divisée par 3. Le ralentissement des échanges provoque aussi la chute des prix des matières premières comme le blé, le coton, le caoutchouc, la laine et d'autres. Or, les principaux producteurs de ces matières premières sont les pays et colonies d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Ainsi, tous les continents sont contaminés par la crise. Les exportations ne sont plus rentables et accélèrent les fermetures des manufactures. Partout en Europe, les destructions d'emplois dans le secteur industriel font bondir le taux de chômage dans les années qui suivent le krach boursier de 1929. En France, par exemple, pour les emplois industriels, il passe de 1 à 15% en 1932. En Allemagne, il bondit de 9 à 43%. Et fatalement, ces crises économiques majeures provoquent dans ces pays des crises politiques intenses et favorisent l'émergence d'idées extrêmes.
Ouais. Est-ce qu'il y a certaines régions du monde qui échappent à cette crise ?
Alors on peut en citer qu'une, l'URSS, encore toute jeune puisqu'elle est née en 1922 de l'Union de la Grande Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie et des républiques caucasiennes. Leur idéal communiste, qui tend vers l'autarcie, les rend insensibles aux soubresauts de l'économie internationale. Ils ne ressentent donc pas vraiment les effets du krach de Wall Street.
Ah, forcément, cette crise économique exige une réponse politique. Alors revenons donc aux États-Unis pour voir comment ceux qui ont fait naître cette crise réagissent.
Devant l'ampleur de la crise, le gouvernement états-unien mené par Franklin Roosevelt depuis 1932 décide de réagir dès les premiers mois de son mandat en intervenant directement dans l'économie, ce qui est contraire à l'idéal libéral qui guide d'habitude les idées politiques américaines. Donc la doctrine adoptée par Franklin Roosevelt est une doctrine économique dite du New Deal, la nouvelle donne, et elle tient en plusieurs points. Réforme du système bancaire, mise en place de réglementations pour mieux contrôler les marchés financiers, etc. Mais surtout, elle s'axe sur deux piliers fondamentaux qui vont profondément changer le visage des États-Unis. L'investissement massif de l'État et des aides sociales.
Oui, tout le monde a entendu parler de ce fameux New Deal, mais comment Roosevelt compte résoudre la crise en creusant la dette ? En quoi ces grandes dépenses qui creusent le déficit peuvent-elles être une solution ?
Pour Roosevelt, l'investissement dans de grands projets va fournir des emplois aux nombreux chômeurs que compte alors le pays. C'est pour ça que les États-Unis se lancent dans une vaste campagne de dotation d'infrastructures à travers l'ouverture d'un bureau fédéral, le Works Progress Administration, qui a, par ailleurs, le grand mérite de moderniser le pays. Cette action aboutit à la création d'un million de kilomètres d'autoroutes, 124 000 ponts, 8 000 parcs, 18 000 terrains de sport, 135 000 kilomètres de canalisation, 125 000 bâtiments publics et 41 300 écoles. Et ce n'est pas tout. À cela s'ajoutent des ouvrages remarquables commandés par la Public Works Administration, dotés d'un budget record de 3,3 milliards de dollars.
Wow.
Ce bureau mena la construction notamment du Hoover Dam, cet immense barrage hydroélectrique de 221 mètres de haut et 14 mètres d'épaisseur, construit sur le cours du fleuve Colorado à quelques encablures de Las Vegas, alors une petite bourgade du sud du Nevada. Le PWA est également le maître d'ouvrage de la connexion des îles Key West à la Floride, ce qui nécessite la construction de l'Overseas Highway, longue de 160 km et constituée de voies et de ponts. Cet immense chantier permit notamment l'aménagement de ces îlots paradisiaques autrefois désertés et qui sont devenus depuis une importante destination touristique, entre autres grâce à Ernest Hemingway qui y avait alors établi son QG. Enfin, il est encore à l'origine de cet immense pont new-yorkais, le Triborough Bridge, qui a permis de relier les trois boroughs, c'est-à-dire les arrondissements de la ville. La construction de cet immense pont suspendu avait été arrêtée en 1930 faute de financement. Et grâce à l'argent du PWA, il peut reprendre grâce à l'injection de 44 millions de dollars qui permit donc de l'achever et son inauguration en 1936 en présence du président Hoover qui voulut faire de ce spectacle un événement national.
Bon, d'accord pour les investissements énormes qui ont été consentis, mais qu'en est-il du volet social du New Deal ?
Devant l'ampleur de la crise et les centaines de milliers de foyers en difficulté, les États sont contraints de mettre en place des aides sociales. Elles sont accordées aux plus vulnérables et permettent de dynamiser la consommation en berne depuis la forte dépression de la monnaie. Ces aides sociales augmentent de 160% entre 1932 et 1933. Pour baisser le chômage et accélérer la remise au travail de la population, Roosevelt élargit aussi les libertés syndicales, crée une assurance retraite pour les plus de 65 ans et une assurance chômage obligatoire. Les femmes sont aussi sollicitées pour se mettre au travail et participer à la diminution du chômage. Toute une campagne de communication est dirigée en ce sens et a donné naissance à ces fameuses affiches, aujourd'hui très populaires, où nous voyons des femmes au foyer se retrousser les manches, enfiler un bleu de travail pour participer à la reconstruction des États-Unis. En combinant toutes ces actions, l'État espère relancer la production, revaloriser le pouvoir d'achat des ménages pour relancer la consommation et débloquer l'économie du pays.
Est-ce que le New Deal agit sur d'autres secteurs économiques ?
Oui, il agit aussi sur l'agriculture, qui a beaucoup souffert de l'effondrement des prix. Là aussi, l'État intervient directement sur la production et les prix, ce qui permet de redonner de la valeur aux denrées et donc permettre la survie du secteur. C'est notamment le travail de l'Agricultural Adjustment Administration, donc le AAA. Par exemple, ce bureau décide du jour au lendemain de doubler le prix du tabac pour que sa production redevienne rentable et ainsi sauver des centaines d'exploitations dans le sud-est du pays et le Midwest. Et cela après avoir obtenu l'accord des industriels. Pour le coton, les prix étaient tombés à 4 cents la livre alors que le coût de production était de 10 cents. L'AAA met en place un programme d'arrachage d'un tiers des plants pour rééquilibrer l'offre et la demande. Ainsi, le prix de la livre de coton est réévalué à 10-11 cents. Mais cette intervention dans le domaine agricole profite surtout aux grands propriétaires fonciers et laisse de côté les petites fermes qui ont pour la plupart disparu. D'où le visage des immenses exploitations états-uniennes que nous avons aujourd'hui et qui est l'héritière de cette épuration dans les années 30.
T'as failli me faire rêver, mais il n'y a pas que du positif dans le New Deal. Quel est le bilan de cette politique de Roosevelt ?
L'idée de Roosevelt était d'augmenter les recettes de l'État pour combler la flambée des dépenses et retrouver un équilibre budgétaire. Tous ces importants investissements étatiques furent en partie renfloués par les nouvelles entrées fiscales qui augmentent grâce à la relance de la consommation. Mais le New Deal connaît une fin brutale avec la Seconde Guerre mondiale. C'est donc difficile de dire si ces réformes et ces investissements de Roosevelt ont eu un effet bénéfique sur la relance de l'économie états-unienne. C'est encore aujourd'hui un débat brûlant là-bas entre les tenants du libéralisme économique qui prônent laisser-faire, laisser-aller, surtout les républicains conservateurs, et ceux qui estiment au contraire que l'intervention de l'État a été providentielle. Ce sont essentiellement les idées défendues par les démocrates, dont Roosevelt était membre.
Clin d'œil à l'histoire sur Radio Bartas, 107 FM.
On vient donc de voir la réaction aux États-Unis et qu'en est-il pour la France qui, on l'a vu, a aussi subi les effets de la crise ?
Oui, en France, ces effets se font surtout durement ressentir à partir de 1932-1933. Mais elle est d'autant plus forte qu'à la différence des États-Unis, tous les pays d'Europe ne se sont pas encore remis de la Première Guerre mondiale. La hausse brutale du chômage provoque une vague de colère et la progression d'idées extrémistes. Cette crise venue de l'étranger attise des idées xénophobes et favorise la progression des théories fascistes. Les ligues d'extrême droite, qui ont le vent en poupe, tentent même un coup de force le 6 février 1934 à Paris pour tenter de renverser le gouvernement qui vient d'être nommé par Édouard Daladier, alors président du Conseil. Le coup de force fasciste a échoué. Article tiré du journal Le Populaire du 7 février 1934.
Les réactionnaires ont voulu avoir leur journée ? Ils l'ont eu. Le sang a coulé. On parle de près de 29 morts. Le nombre des blessés doit s'élever à plusieurs centaines. La Camelote royale, les jeunesses patriotes, les croix de feu, les anciens combattants nationalistes, tous ont donné. C'était une véritable émeute, préparée, organisée avec soin, avec méthode, par les formations fascistes. C'était un complot armé contre le régime républicain. Il a échoué. Cependant, les instigateurs de ce mouvement avaient choisi le moment le plus favorable. Le nouveau gouvernement se présentait à la Chambre dans une atmosphère de fièvre. Le préfet de police venait d'être relevé de son poste et on pouvait escompter un certain trouble de l'organisation policière. Une vague hurlante de manifestants repart à l'assaut du pont de la Concorde. Les gardiens de la paix la regardent passer, les mains dans les poches. Un premier barrage de camions est enfoncé. Les gardes à cheval et les gardes mobiles, qui seuls maintenant doivent assurer la défense du pont, sont débordés, contraints de se replier vers le palais Bourbon. Plusieurs coups de revolver partent de la foule à leur adresse. Ils ripostent. Une première salve de mousquetons est tirée à blanc, à titre d'avertissement. Mais les émeutiers gagnent du terrain. Les gardes tirent en l'air, cette fois avec des balles réelles. Ce n'en est pas assez pour intimider les énergumènes qui ont résolu de renverser la République et le régime parlementaire. « Vive Chiappe ! À bas les voleurs !» Bryce est fou et il lance des bombes sous les pieds des chevaux. Les gardes mobiles tirent alors pour de bon. Une dizaine de perturbateurs s'écroulent. Le reste s'enfuit. En quelques secondes, le pont est dégagé, la place vidée, balayée par un cyclone. À minuit, il est extrêmement difficile d'établir un bilan exact des victimes. Les hôpitaux sont pleins, surtout. On y aurait admis 150 blessés, dont deux au moins sont morts. le fils de Monsieur Delavenne, conseiller municipal, aurait reçu une balle dans l'abdomen. D'autre part, place de la Madeleine, une jeune femme aurait été grièvement blessée. Certains même la donnaient pour morte, mais la révolution a échoué.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM.
En fait, le bilan de cette soirée d'émeute a été plus lourd que ce qui a été annoncé ici. Les affrontements ont causé la mort de 16 manifestants et d'un policier. On compte par ailleurs plus d'un millier de blessés. Attention aussi à l'orientation de ce récit tiré d'un journal de gauche proche du SFIO. Vous avez d'ailleurs entendu les nombreuses allusions à la mansuétude de la police à l'égard des ligues, qui est due au fait que ce Jean Chiappe, dont le nom aurait été clamé par les ligues, n'était autre que le préfet de police limogé ce jour-là même par Daladier. Mais quoi qu'il en soit, cette journée d'émeute a été vécue comme un traumatisme par les Français qui ont vraiment vu la Troisième République vaciller.
Quelle est la réponse politique qui est alors apportée à cette crise ?
Les partis de gauche vont se mobiliser pour lutter contre la montée des ligues. Ils se rassemblent dans la grande coalition du Front Populaire et parviennent sous l'égide de Léon Blum à remporter les élections législatives de mai 1936. Les ligues antiparlementaires d'extrême droite sont battues à plate couture. La population accueille ce nouveau gouvernement censé résoudre la crise avec une ferveur comme en témoigne l'organisation de grèves joyeuses dans les grandes usines du pays, comme celle qui a eu lieu aux usines Renault de Boulogne-Billancourt le 28 mai. Le Front Populaire est ainsi appelé à mettre en place au plus vite ses réformes. Et c'est ce qui est fait, puisque dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, c'est la signature des accords de Matignon qui contribue à l'amélioration des conditions de travail des salariés, grâce au renforcement des libertés syndicales, à la mise en place de représentants du personnel dans les entreprises comptant plus de 10 salariés, et à une hausse généralisée des salaires, de 15% pour les plus modestes à 7% pour les plus élevés. C'est là la réponse aux grèves joyeuses de la fin du mois de mai. D'autres grandes mesures tout à fait emblématiques suivent dans l'été. La semaine de travail à 40 heures, au lieu des 48 heures. Les deux semaines de congés payés annuels. La nationalisation des compagnies de chemin de fer qui aboutissent à la création de la SNCF. Des billets de train à prix réduit pour les 10 congés payés. La scolarisation des enfants obligatoires jusqu'à 14 ans.
Beaucoup de belles avancées, mais comment ces mesures peuvent-elles répondre aux crises politiques et économiques des années 30 ?
Elles offrent surtout une réponse sociale à ceux qui auraient pu être tentés par les idées antiparlementaristes des ligues. L'État a répondu et a justifié là son existence. Par ailleurs, un peu dans le même esprit du New Deal, ces mesures ont pour objectif de faire baisser le chômage et augmenter le pouvoir d'achat de la population, de sorte à relancer la consommation. Les investissements réalisés par l'État en 1936 a par ailleurs permis le développement d'une nouvelle activité économique, le tourisme. Et c'est notamment le littoral normand, proche du bassin de population parisien, qui profite dès le premier été des premiers congés payés. Bien sûr, ces mesures ne font pas l'unanimité et sont vivement critiquées par les partis de droite conservateurs.
Ouais, tu m'étonnes. Alors, on a vu rapidement le cas de la France en Europe. D'autres du continent ont-ils été aussi déstabilisés par la crise ?
Oui, bien sûr. Nous avons déjà mentionné l'Allemagne qui était sans doute le pays qui dépendait le plus de l'économie américaine. Pour faire vite, on voit très clairement que la montée du chômage dans le pays se confond avec la progression du vote en faveur du NSDAP, le parti d'Hitler. Au plus fort de la crise, en 1933, il est en mesure de prendre le pouvoir et obtient en février 1934 une extension de son pouvoir qui lui permet d'établir une dictature dans son pays.
C'est une autre histoire que nous n'avons pas développée maintenant. L'Allemagne est-elle le seul pays à connaître une dictature dans ces années-là ?
En Europe, les États totalitaires comme l'Italie et l'URSS étaient déjà bien en place avant 1929. En revanche, l'Amérique latine connaît de nombreuses crises politiques qui aboutissent souvent à la mise en place de dictatures.
Et pourquoi l'Amérique latine est à ce point touchée ?
Tout simplement parce que les États-Unis sont les principaux partenaires commerciaux de ces pays, et eux aussi étaient généralement leurs débiteurs. Dans un pays comme le Chili, la valeur des exportations, qui ciblait essentiellement les États-Unis, s'effondre dès 1929, passant de 400 millions de pesos à moins de 80 millions de pesos en 1934. Donc non seulement la crise est violente, mais elle touche aussi très rapidement tout le sous-continent. L'industrie, le commerce, les banques sont durement touchées. La plupart des pays d'Amérique du Sud et le Mexique voient leur chômage flamber, la précarité s'installer et, comme ailleurs, les idées extrémistes progresser. Tout cela se concrétise par la diffusion d'idées fascistes et nationalistes dans des pays comme le Pérou, le Chili, l'Argentine ou encore l'Uruguay. Et dans certains pays, cela va encore plus loin. Au Brésil, une révolution est organisée en 1930 par Getúlio Vargas, candidat malheureux aux dernières élections législatives. Il démantèle la République brésilienne et garde le pouvoir pendant 20 ans. il instaure à partir de 1937 une véritable dictature, l'Estado Novo, sous prétexte de vouloir lutter contre le communisme. Il limite les libertés individuelles et intervient dans l'économie en régulant par exemple le prix du café, en limitant la durée du temps de travail, en promulguant les congés payés, les assurances sociales ou encore l'assistance médicale. Ces mesures lui valent le surnom de « père des pauvres ».
Le Brésil est-il un cas isolé ?
Non, d'autres pays ont connu des coups d'État que l'on peut imputer à la Grande Dépression. C'est le cas du Pérou, de la Bolivie, de l'Argentine et du Chili. Mais sans aller jusqu'au coup d'État, d'autres régimes sombrent dans l'autoritarisme comme l'Équateur, le Venezuela, la République dominicaine ou encore le Mexique.
Clin d'œil à l'histoire sur Radio Bartas 107FM.
Balayer un peu tout ça, cela nous permet de mesurer les conséquences planétaires de la crise de 29. Est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit de la première crise mondiale ?
Les faits sont là. Une crise liée à l'explosion des spéculations a complètement détruit l'économie et le système financier du pays, qui était alors en passe de devenir la première puissance mondiale. Et on voit comment elle a eu des répercussions sur tous les continents du monde, et ce d'autant plus que l'Afrique et le sud de l'Asie vivent encore sous le régime colonial et connaissent donc les mêmes turpitudes que leur métropole. En tout cas, la Grande Dépression confirme le déclin de la vieille Europe qui avait déjà connu la ruine lors de la Première Guerre mondiale. Pire, elle favorise le repli sur soi, la xénophobie et la montée en puissance des États totalitaires qui s'opposent frontalement tout au long des années 1930 aux démocraties. Cette fracture politique fait peu à peu glisser ces deux Europes vers une nouvelle crise qui, elle aussi, revêt rapidement une ampleur mondiale, la guerre de 39-45, où haine et xénophobie se déchaînent. On ne veut plus simplement conquérir les territoires de l'ennemi, mais on veut alors tout simplement l'anéantir parce qu'il est différent.
C'était l'épisode 10 de Clin d'œil à l'histoire présenté par Raphaël et Ben, le krach de Wall Street et la Grande Dépression.
My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on? Sing it! Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Be a man. Which side are you on? Which side are you on? Tell me, which side are you on? Which side are you on? I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell. Tell me, which side are you?